Expansion en dehors de l'Arabie, Omar, 634-644. Sur son lit de mort, Abou Bakr désigna comme son successeur Omar, âgé de 43 ans, qui était déjà le deuxième personnage le plus influent du jeune État. Au départ, Omar avait été un farouche opposant de Mohammed, au point qu'à une époque, en 616, il résolut de le tuer. En chemin, il s'arrêta chez sa sœur pour lui reprocher à elle et à son mari d'avoir embrassé l'islam. En les entendant réciter le Coran, il se convertit sur le champ. Connu pour son tempérament vif, il devint dès lors l'un des partisans les plus dévoués du prophète Mohammed. Indifférent à la richesse colossale qui affluait à la Mecque et à Médine, grâce aux conquêtes militaires, Omar mena une vie simple. Les musulmans sunnites le considèrent comme un modèle de chef. Ce fut un calife qui obtint de grands succès et réalisa de grandes choses. Omar prit le titre de Amir al-Mu'minin, commandeur des croyants, un titre qui sera repris par ses successeurs. Il supervisa la première grande expansion de l'islam hors d'Arabie, conquérant les territoires qui correspondent aujourd'hui à la Palestine, la Syrie, l'Irak, l'Égypte et l'Iran. À l'ouest et au nord de ces régions se trouvait l'Empire byzantin, l'Empire romain d'Orient. À l'est et au nord-est, l'Empire sassanide, héritier de la Perse antique. En 636, avec l'aide de chefs militaires habiles comme Amr ibn al-As, mort en 663, et Khalid ibn al-Walid, mort en 642, Omar et son armée infligèrent à l'armée byzantine une défaite sévère sur les rives du Yarmouk, au sud de la Syrie. En 637, il triompha de l'armée sassanide au sud de l'Irak et occupa un peu plus tard la capitale sassanide de Ctésiphone. Si l'Empire romain d'Orient, byzantin, maintint encore quelque temps sa puissance, la victoire de 637 marqua la fin de la suprématie de l'Empire sassanide iranien dans la région. Les armées arabes avancèrent vers la Mésopotamie en conquérant le nord de l'Irak. Tant et si bien qu'au milieu des années 650, elles avaient atteint la partie orientale de l'Iran. En 642, les armées musulmanes avaient évincé les Romains et pris le contrôle de l'Égypte. Omar mit en place les fondements administratifs du monde musulman en pleine expansion, en s'appuyant sur des structures bureaucratiques déjà existantes dans les régions prises par les Romains. Les non-musulmans se virent attribuer un nombre non négligeable de fonctions importantes, de niveaux intermédiaires, dans les domaines où les envahisseurs arabes manquaient de savoir-faire. Omar installa des bases militaires à Koufa, dans l'Irak actuel, et à Basra, Bassora, elle aussi en Irak, puis ailleurs par la suite, où les soldats étaient séparés de la population locale. Ces garnisons devinrent des centres importants pour le développement de l'islam dans la région. La solde des militaires était prélevée sur les butins de guerre. L'occupation arabe dans les territoires conquis aboutit à la formation d'une élite locale issue des conquérants arabes. Cependant, cela ne remit pas en cause la place des notables de l'ère antérieure, qui purent conserver leurs terres et leurs prérogatives. Ces gens ne gardaient d'ailleurs pas un très bon souvenir de la domination sassanide puis romaine. Par sa politique de conciliation, Omar réussit à s'assurer de leur soutien au nouvel État musulman. Un certain nombre des membres de cette élite locale se convertirent à l'islam, sans doute en partie motivés par le désir d'améliorer leur situation dans le cadre du nouvel ordre musulman. Omar choisit la date de l'émigration de la Mecque à Médine, 622, comme date de début du calendrier musulman. Omar institua une politique de tolérance à l'égard des chrétiens et des juifs, en mettant en avant des passages du Coran relatifs aux non-musulmans qui se réfère à un livre saint, les gens du livre. Les chrétiens et les juifs ne furent pas obligés de se convertir à l'islam. Pour aller plus loin, pendant près de 200 ans, les musulmans restèrent une minorité au Moyen-Orient. Vers 637, le patriarche chrétien de Jérusalem livra volontairement la ville à l'armée musulmane qui s'avançait. La tradition musulmane rapporte que, à l'entrée d'Omar dans la ville, il déclara qu'il n'irait plus prier à l'église bâtie sur le lieu de la crucifixion de Jésus tant que celle-ci ne serait pas transformée en mosquée. Le document connu sous le nom de « Traité d'Omar » fixe les conditions dans lesquelles les chrétiens et les juifs étaient autorisés à vivre dans l'État musulman. Ils reçurent le statut de protégés, d'immis, qui les autorisait à continuer à pratiquer leur religion, mais non à convertir les autres, ni à construire de nouveaux lieux de culte. Ces d'immis devaient porter des vêtements spécifiques et payer un impôt supplémentaire pour compenser le fait qu'ils ne servaient pas dans l'armée musulmane. Les historiens contemporains ne sont pas tous d'accord avec la façon dont les musulmans rapportent la manière dont se sont déroulées la conquête de Jérusalem et la signature du traité d'Omar. Certains considèrent que ces récits correspondent à la vision qu'en avaient les musulmans dans les premiers siècles qui suivirent la conquête musulmane. Le travail scientifique qui a été entrepris ces 20 dernières années s'efforce de donner un aperçu plus exact de la période des premiers temps de l'histoire musulmane. Il reste encore beaucoup à faire à cet égard. En tout état de cause, ce récit de la prise de Jérusalem et du traité d'Omar ont eu une importance capitale sur le traitement réservé aux chrétiens et aux juifs dans les territoires nouvellement conquis. Il reste pertinent pour expliquer la manière dont les musulmans considèrent leur rapport avec les chrétiens et les juifs d'aujourd'hui, et même avec tous les non-musulmans. Un esclave mécontent assassina Omar en 644. Sur son lit de mort, il constitua un conseil des sages, Choura, composé de Ali, Othman et d'autres chefs importants chargés de choisir le nouveau calife. C'est Othman qui fut choisi. De nos jours, certains partisans d'une forme de démocratie musulmane se réfèrent à l'institution de la Choura qui constitue pour eux un précédent spécifiquement musulman. Les chiites considèrent qu'une fois encore, Ali fut injustement écarté de la fonction de calife. Il est d'ailleurs possible que Ali lui-même se soit rallié à contre-cœur au choix de Othman.